manifestation.
Hermano.
Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Abaton Rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Malheureusement, Hassan Kerim ne pourra pas être présent aujourd'hui parce qu'il est retenu ailleurs. Donc c'est moi, Victor, qui animerai cette émission en compagnie de Steven. Bonjour Steven.
Salut Victor, toujours un plaisir de te retrouver.
Bah oui, tu nous feras un petit sujet sur une conférence qu'on est allé voir hier du journaliste Ricardo Pereira sur le symbole, les symbolismes d'extrême droite.
C'est ça, un peu de sensibilisation sur l'extrême droite.
Et si on a le temps, un petit sujet sur un film que tu allais voir sur l'histoire de Souleymane.
L'histoire de Souleymane, le film s'appelle.
D'accord, ok, ça marche. Je suis également avec Asma, qui est de retour dans les studios. Bonjour Asma.
Bonsoir, bonsoir Victor, bonsoir à tous.
Qui va nous parler de Niki de Saint-Phal, artiste plasticienne de renom.
Exactement.
Et qui apparemment a un film sur elle au cinéma en ce moment.
Oui, un biopic sur sa vie, qui est passionnant, sur une femme très inspirante.
D'accord, ok. Et du coup, Thomas, qui est avec nous également dans les studios. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Victor, ça va?
Ça va, très bien.
Ouais.
Toi, tu nous parleras un petit peu de la rédac pop, comme à ton habitude.
Ouais, c'est ça.
Si on a le temps.
Ça continue de sortir quelques articles sympas, dont un notamment aujourd'hui.
D'accord, ok, très bien. Juste avant ça, on va s'écouter d'abord l'interview que nous avons enregistrée hier avec Hassan de Mourad Guichard, journaliste indépendant orléanais qui nous fait des retours critiques sur l'actualité donc, en ce moment. Et voilà, donc on l'a interrogé hier, donc voilà.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan et bonsoir à Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir Mourad.
Bonsoir Victor, pour ta chronique du jour Mourad, nous allons parler de deux sujets, en commençant par celui-ci, une polémique, on aime bien ce mot, polémique lancée par, peut-être pas lancée mais tu nous expliqueras mieux, autour de Pascal Boniface qui a mis sur, qui s'est interrogé sur X et plus exactement, il faut chercher les bons mots et dire les bons mots dans ce sujet, sur ce sujet-là, il a traité... le maire de Saint-Ouen,
Karim
Bouamran, il s'est demandé si c'était un musulman d'apparence. On explique pourquoi. Karim Bouamran, hein, c'est l'étoile montante du PS en ce moment. Il est invité sur tous les plateaux. On dit de lui que c'est le Obama français. Il était invité dans l'émission de Léa Salamé sur la 2 il y a 10 jours. Et il a parlé de choses et d'autres, et notamment des rapports entre partis, au nouveau parti, au nouveau Front Populaire. Pascal Boniface a demandé à quel titre il était invité si souvent et il a utilisé un terme qui n'était pas le bon, peut-être.
Muslim d'apparence, donc musulman d'apparence, oui. Ce qui est éminemment le cas dans la tête de bon nombre de personnes qui peuvent lui trouver des qualités. Alors il a ses qualités propres, mais de facto, on ne peut pas dire, c'est comme si je disais que je n'avais pas un physique de musulman d'apparence. Et que toi, Hassan, tu n'avais pas un physique de
Suédois,
de Suédois, enfin de subsaharien, pour être plus précis, d'apparence. Même si on ne l'est pas forcément, hein, je veux dire, on peut être. Moi, je suis né en France, j'ai un patronyme français, mais pour autant, oui, évidemment que dans l'espace public, j'ai une apparence, à défaut d'être musulman, au moins maghrébin. Et donc, il a posé cette question de manière un peu. Faussement naïve, hein, comme c'est le faire Pascal Boniface, mais, sauf qu'il est dans le collimateur depuis des années notamment par rapport à ses prises de position sur la Palestine et sur Israël. Il est dans le collimateur d'un certain nombre de bien-pensants du type Printemps Républicain et autres.
Absolument, par son travail, on va rappeler Pascal Boniface, chercheur, directeur de l'URI, géopolitologue, voilà, très informé de ce qui se passe notamment au Moyen-Orient.
Et quasiment sur pas mal de sujets, je trouve une démarche.
Alors,
j'ai eu l'honneur d'être invité dans son podcast, qui m'a consacré, il a une démarche parfois qui s'apparente à celle d'un journaliste en révélant y compris des choses, je pense notamment à son fameux podcast sur Frédéric Ancel, on en reparlera peut-être ici une prochaine fois. Donc tout le monde lui est tombé dessus, mais tout le monde sauf une seule personne qui ne lui est pas tombée dessus, enfin une seule catégorie de personnes qui ne lui sont pas tombées dessus, c'est les associations de lutte contre l'islamophobie. Parce que eux ne se sont pas du tout, enfin ont très bien compris ce que voulait dire Pascal Boniface, c'est qu'il n'y avait rien ni d'islamophobe, ni d'arabophobe, ni tout simplement de raciste. Et on peut évidemment, difficilement avec son parcours, qualifié Pascal Boniface de raciste. Et surtout, ce qui lui est reproché, c'est justement dans le conflit, dans les conflits moyen-orientaux, c'est de prendre plutôt fait et cause pour les colonisés que pour les colonisateurs. Et en l'occurrence, les colonisés sont plus près des Arabes que l'inverse. Et donc, c'est un peu étonnant de les voir, et c'est ce qui va expliquer, je pense qu'on va en écouter un extrait.
Bien sûr.
C'est ce qui va expliquer dans un podcast qui va servir de réponse à tous ces détracteurs. Je pense qu'on va l'écouter, puis on en reparle juste après.
Absolument, on l'écoute tout de suite, Pascal Boniface.
Rime ou un drame, une polémique s'est déclenchée à propos d'un terme que j'ai utilisé, musulman d'apparence. Alors, quand on n'est pas compris, c'est qu'on s'est mal exprimé. Je n'aurais pas dû employer cette expression, même si, bien sûr, mon intention n'était pas d'assigner les gens. Mais comment dire ? En fait, pour moi, c'était musulman dans l'œil des autres. C'était pour ça. Qu'est-ce qu'on dit ? Français d'origine maghrébine, musulman, on ne sait pas si les gens sont croyants ou pas. Et donc, en fait, mon idée était de dire quelqu'un qui est musulman dans les yeux des autres. Voilà ce que je voulais dire. Ça a été interprété de façon tout à fait différente. Certains, de bonne foi, ont été choqués. D'autres, en fait, ont instrumentalisé ou ont gonflé une colère qui n'existait pas parce que ils ont des comptes à régler avec moi et qu'ils ont trouvé que l'occasion était bonne. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, en fait ? En fait, je me rappelais mes années au PS. Quand j'étais au PS, beaucoup de responsables qui étaient musulmans ou qui étaient arabes ou d'origine maghrébine disaient, tu comprends, sur le Proche-Orient, on ne peut pas s'exprimer, sinon on est tout de suite catalogué comme antisémite ou communautariste. Et donc, malgré l'envie qu'ils avaient de s'exprimer là-dessus, ils étaient finalement contraints un peu au silence, ils s'auto-censuraient pour ne pas être soumis à la critique. Et on voit bien que dans ce débat, c'est le cas pas seulement des responsables OPS, mais un peu partout. Les responsables religieux musulmans s'expriment très peu sur le conflit, les artistes musulmans s'expriment très peu, alors que ceux qui soutiennent Israël le font pour certains très bruyamment et avec beaucoup de véhémence. Donc en fait, voilà, il y a une sorte d'auto-censure sur l'expression, et c'est pour cela que j'interpellais Karim Bouadran. Donc ça a été perçu autrement. Pour certains, de façon sincère, je m'en excuse auprès d'eux, pour d'autres, de façon non sincère. Et là, on voit bien la part d'instrumentalisation, la part de stigmatisation et de mauvaise foi, des colères feintes, etc.
Moi, je trouve que c'est une belle explication à ce qui s'est passé. Mmh. Je propose qu'on écoute en même temps, parmi ceux qui l'ont attaqué ce week-end, il y a notre ami Frédéric Aziza, notre ami entre guillemets, gros guillemets, qui est sur Radio J, on en parle souvent ici, Mourad. Évidemment, Aziza, il a trouvé le moyen d'attaquer le travail de Pascal Boniface. Il avait comme invité Laurent Saint-Martin, il me semble, ministre chargé auprès du budget. Premier ministre, chargé du budget. Écoutez comment Frédéric Aziza analyse cette histoire.
Le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, a été au centre d'une polémique après avoir qualifié le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamran, de, je cite Boniface, musulman d'apparence, à qui il a reproché Boniface de ne pas critiquer Netanyahou et donc de bénéficier, c'est Boniface qui parle, d'une grosse promotion médiatique. Il dit promo médiatique. Comment expliquez-vous qu'une personnalité publique comme Boniface, omniprésent sur les plateaux télé et qui a aussi des liens avec le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense, utilise une rhétorique raciste pour qualifier un élu de la République ?
Je ne me l'explique pas. Je ne sais pas ce que veut dire musulman d'apparence. Je trouve ça profondément essentialiste.
Essentialiste raciste ?
D'une certaine façon, oui. Si par la couleur de peau ou si par l'apparence physique de quelqu'un, vous lui dictez sa pensée, oui, ça y ressemble très fortement.
Ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à de l'essentialisme. Vous mettez les gens dans des cases, vous considérez que les communautés décident par avance de ce qu'elles doivent penser. Mmh. En fait, ce qui me dérange profondément dans les propos de Pascal Boniface, c'est qu'il laisse à penser que M. Boamran serait un traître à quelque chose.
Mais un traître à l'islam,
Il y a quelque chose comme ça. C'est insoutenable.
Je veux dire, traduction chez Boniface, vous avez les musulmans halal qui sont anti-israéliens et les musulmans kachers qui sont éventuellement pro-israéliens ou neutres.
En tout cas, on voit bien que quand on a une couleur de peau, une apparence des origines, il faut nécessairement penser quelque chose. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans l'humanité. C'est tout le contraire qu'il faut défendre.
Les maires de Dijon et de Nantes, François Rebsamen et Jonas Roland, les maires socialistes, ont eu raison d'annuler les partenariats entre leur ville et l'IRIS.
Ça ne m'étonne pas d'eux, ce sont eux des républicains universalistes.
Mais ils ont eu raison ou pas ?
Oui, je crois.
Ouais. Hein, parce que, est-ce que vous souhaitez, par exemple, que l'émissaire de la Défense et des Affaires étrangères revoie leur lien éventuel avec l'IRIS ?
Bah écoutez, si il est démontré effectivement que l'institut, faut toujours faire attention à distinguer les hommes et les institutions. Il faut regarder effectivement comment cela fonctionne en détail. Mais si votre question c'est est-ce qu'on doit condamner politiquement, parce qu'on parle de politique là, est-ce qu'on doit condamner politiquement ces propos ? Oui, ce sont des propos qui vont dans le mauvais sens.
Boniface qui s'est fait connaître au début des années 2000 à travers une note où il conseillait au PS et dont il était membre de revoir sa stratégie au Proche-Orient, jugée par lui trop pro-israélienne dans la mesure où selon lui, l'électorat musulman était plus nombreux que l'électorat juif. 24 ans après, Mélenchon fait donc du Boniface.
Bah, c'est QFD, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la stratégie électorale de la France insoumise.
Et voilà, ça faisait 3 minutes, hein. j'ai compté, ça faisait 3 minutes qu'il n'ait pas parlé de Mélenchon, Frédéric Aziza. Bon, la boucle est bouclée, en plus Frédéric Aziza demande au gouvernement de revoir des accords avec l'IRIS, qui est une institution depuis plusieurs années sur ça.
Oui, absolument, et surtout, il va tweeter, je vous invite à aller voir son compte Twitter, hein, c'est tout à fait public, il va tweeter en disant que le ministre s'interroge sur le fait de maintenir ou pas les relations avec l'IRIS entre ces deux ministères.
On l'a tous entendu,
sauf que c'est pas du tout la vérité, puisqu'il dit qu'il faut distinguer l'homme de l'institution.
Absolument.
Et donc, il a menti, donc on peut le dire très tranquillement, Frédéric Aziza est un menteur, est un militant politique, est un militant de la cause non pas israélienne, mais du gouvernement israélien et de l'armée israélienne avec ce qui se passe en ce moment. On est en droit de s'interroger si c'est toujours, on peut toujours le considérer comme un journaliste. Et donc, il va orienter le débat. Et comme tu le dis en souriant à Hassan, il va arriver à la France insoumise et à Mélenchon. On se demande... Il faut consulter à un moment donné.
Mais c'est clair.
Quand on a une obsession comme celle-ci, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, mais c'est valable pour les Nathalie Saint-Cricq, pour les Rutel Krief. Il y a un moment donné, il faut qu'ils lâchent un peu la barre, qu'ils essayent le journalisme, tout simplement, qu'ils essayent d'avoir un point de vue un peu équilibré, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est ici, avec Pascal Boniface, un nouvel épisode qui s'écrit après le 7 octobre, donc un nouvel épisode de déchirure. Hein. J'ai déjà parlé ici de l'impact qu'avait pu avoir le 7 octobre, bien supérieur à celui du 11 septembre. Et là, on a encore un épisode, et ce sera évidemment pas le dernier. Et quant à parler, Frédéric Aziza rebelote, le militant menteur, serial menteur, parle de l'omniprésence de Pascal Boniface. Justement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Pascal Boniface, du fait de ses positions, est invité excessivement rarement. Il a même témoigné à plusieurs reprises que des programmateurs d'antenne, alors je pense notamment à France Inter ou je ne sais plus quelle autre chaîne, ou quelle autre station, pardon, avait dit clairement plus jamais tu ne viendras dans mon émission. Parce qu'il a tenu des propos qui ne vont pas dans le sens qu'on attend. À l'inverse, et je termine sur ce sujet, à l'inverse de Karim Bouamran, qui est invité partout et qui va dire ce qu'on attend de lui, alors qu'il y a quelques mois encore, il parlait d'intentions génocidaires concernant Gaza et que, bizarrement, depuis qu'il ne dit plus cela, il est invité de manière récurrente sur les plateaux. Donc, effectivement, et moi, je fais partie des gens qui pensent que Pascal Boniface n'aurait pas dû retirer son tweet, je pense qu'on a le droit de se poser la question de la récurrence, comme Rachel Kahn ou comme d'autres, ou comme Caroline Fourest, hein, ça ne tient pas à la couleur de peau, forcément. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur les plateaux télé ? Qu'est-ce que Raphaël Enthoven vient s'exprimer sur tout et n'importe quoi, en ne maîtrisant absolument pas les sujets, en criant à l'antisémitisme parce qu'il y a marqué J-U-D-E sur un mur Place de la République, alors qu'on n'a absolument aucun élément prouvant. D'ailleurs, très souvent, je le précise, puisque vous avez dû voir passer cette affaire, mais très souvent, quand il y a des tags antisémites, il y a une étoile de David. Et là, pas d'étoile de David, il y a juste écrit Jude, avec un style graphique qui rappelle les tailleurs parisiens, enfin, franciliens. Donc, je ne vois pas trop pourquoi ces gens sont de manière aussi récurrente invités à nous polluer l'espace médiatique audiovisuel.
Cette affaire-là, tu l'analyses hein, dans l'œil de Moumou de la semaine dernière. Allez écouter mes auditeurs et auditrices pour voir ce que pense Mourad de Karim Bouamran. J'ai trouvé que c'était très bien foutu parce que tu dis à la fin qu'il est presque otage. Il est obligé d'aller à la télé, il est otage de son truc.
Oui, on se mord la queue. Et nous l'expliquions avec mon confrère Théophile on marche sur des œufs sur ce truc-là. Parce que dès que vous dénoncez Dès que vous dénoncez les gens qui, par exemple, attaquent Pascal Boniface, vous allez ou alors quand vous dénoncez Rachel Kahn, dont j'avais annoncé, d'ailleurs, ça avait été repris par Rokhaya Diallo.
Oui, bien sûr.
Qu'elle avait été. J'ai eu la confirmation que Rachel Kahn, l'essayiste du printemps républicain, avait été dégainée pour contrer. La brillante Rokhaya Diallo, que je salue, et qui était jugée wokiste, islamo-gauchiste, enfin tous les trucs en liste. Dès que vous rentrez dans ce truc-là, alors Théo et moi, on a la chance d'avoir des origines qui font qu'on peut difficilement nous soupçonner de racisme ni envers Bouhamran, ni envers Rachel Kahn, mais c'est toujours casse-gueule parce que ils sont aux aguets. Je parle de tous ces gens-là, les Raphaël Enthoven, les Forest, les Ancel et compagnie, sont au taquet comme ils l'ont été avec Boniface, mais comme ils l'ont aussi été à notre époque avec Gérard Filoche, qui avait été accusé d'antisémitisme parce qu'il y avait un tout petit drapeau à 2h du matin, un tout petit drapeau israélien sur un dessin, effectivement, dessin absolument antisémite, mais qu'il a rebalancé sans avoir vu, évidemment, le fait antisémite. D'ailleurs, je le dis très tranquillement puisque les tribunaux lui ont donné raison.
Oui, bien sûr.
Mais c'était l'occasion de le dégager. Donc là, c'est exactement ce que vit Pascal Boniface. Et donc, à chaque fois, ils arrivent à retourner le truc, c'est-à-dire à essentialiser les personnes, d'une part, mais parce qu'on les critiquerait, on serait soi-même raciste. Mmh. Alors que c'est eux qui les essentialisent. Moi, je ne critique pas Rachel Kahn parce qu'elle est noire ou pas noire, j'en ai rien à foutre. Je la critique parce qu'elle est incompétente, parce que c'est une plagiaire, parce que c'est une menteuse, parce qu'elle s'auto-instrumentalise pour pouvoir continuer à aller sur les plateaux de télé. Mais je fais pareil pour Forest. Et Forest, à ma connaissance, elle n'a pas d'origine subsaharienne. Donc on s'en fout complètement. Qu'il soit juif, pas juif, musulman, pas musulman, moi, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que tout le monde. À partir du moment où vous vous exposez, moi le premier, enfin nous les premiers, on doit accepter la critique. Et on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et se cacher derrière ses origines pour dire que bah, non, on n'a pas le droit de nous attaquer. Si on nous attaque, c'est parce qu'on est raciste. Ça n'a aucun sens.
Une dernière chose. Frédéric Aziza disait que le maire de Dijon et la maire de Nantes avaient pris une position et voulaient revoir leur relation avec Idriss. Je t'ai vu même, Victor, bondir là-dessus, non ? Ou c'était là-dessus ou tu avais envie de dire quelque chose ou pas ?
Non, pas spécialement.
Mais tu as quoi comme position là-dessus ?
Alors, c'est factuel. C'est-à-dire que là, pour le coup, Aziza a dit une vérité. C'est-à-dire que oui, le maire de Dijon, qui est un vieux baron socialiste croulant, parce que je dis croulant, parce qu'il a fait s'écrouler
François Rebsamen,
aussi
hein.
Absolument le Parti Socialiste, qui a des problèmes aussi, il devrait s'occuper de ses problèmes judiciaires. Et bizarrement, étonnamment, la maire de Nantes, effectivement, Johanna Roland, ils ont produit un communiqué pour dire qu'ils suspendaient. Il suspendait les relations avec Pascal Boniface et l'Iris, donc, alors qu'en plus, Pascal Boniface est à l'origine de l'événement de Géopo de Nantes, justement.
Oui, c'est ça.
Non, ils l'ont factuellement, pour le coup, suspendu.
D'accord.
Mais c'est pareil, c'est l'aile droite, au moins pour Rebsamen, c'est l'aile droite du PS qui se venge de Boniface parce que, voilà, parce que ses prises de position sur la Palestine ne leur convient pas. Donc c'est vraiment un prétexte, il a entièrement raison, Pascal, quand il dit ça. C'est un prétexte pour venir le désinguer, même si des gens, comme il l'a dit également, ont peut-être été un peu blessés parce qu'ils n'ont pas compris le message, parce qu'ils ne sont peut-être pas habitués à ce type de raisonnement. Mais factuellement, ça sert de levier pour une vengeance collective sur quelqu'un qui fait le job depuis quelques années et qui est beaucoup plus... qui est beaucoup plus précis et connaisseur des questions de géopolitique que, par exemple, des gens comme Frédéric Ancel ou Raphaël Enthoven qui passent leur temps à ergoter, à écrire, à commenter des choses dont ils n'ont absolument aucune maîtrise.
Un mot sur Frédéric Ancel, tu l'as cité, donc on devait en parler. Qui c'est ? Qui est ce monsieur ?
Ancel, c'est un chroniqueur qui intervient également à Sciences Po et qui, en fait, est un ennemi de Pascal Boniface depuis longtemps, qui est un ancien du Bétard, l'association d'extrême droite. Alors, on l'appelle comme on veut, mais enfin, on va la qualifier à minima sioniste. Sachant qu'eux-mêmes se qualifient sionistes, donc c'est pas du tout une injure, c'est un fait. Et qui a lui aussi produit un tweet. Alors, assez marrant, parce qu'il parle de Kamel Daoud, de l'écrivain algérien Kamel Daoud, et essayiste, hein, ils sont tous essayistes de toute façon, qui on va dire, à des positions particulières, qui est beaucoup aimé par la droite et l'extrême droite pour des raisons que je vous laisse découvrir ou deviner. Et il va se servir de lui en disant qu'il était courageux, que machin, que bidule. Et il pose la question, est-ce que Pascal Boniface, va le traiter de musulman d'apparence et ainsi de suite. Donc ce qui est drôle, c'est qu'il va... rebelote, je suis désolé de redire la même chose, mais il va essentialiser, pourquoi il va choisir Kamel Daoud ? C'est pas par hasard. Il va essentialiser Kamel Daoud, il va dire qu'il faut pas essentialiser les personnes en fonction de leur origine présumée ou en fonction de leur religion, mais il va nous présenter le bon profil. Voilà, ça... il y en a être bon profil. On vous le met sous le nez. De manière, d'abord paternaliste, et j'ai envie de dire, in fine, pour terminer là-dessus, in fine, raciste. Puisqu'il va, il va choisir ce qu'on appelle, avec 10 guillemets et 3 parenthèses, et qui est condamnable par la loi, il va choisir le bon arabe à nous présenter parce qu'il correspond à son schéma de pensée, c'est-à-dire réactionnaire, aimé par la droite, aimé par l'extrême droite, et qui a des positions plus qu'ambigu sur ce qui se passe notamment au Moyen-Orient. Et donc ces gens-là sont complètement hypocrites puisque pour eux, j'ai envie de dire, ouais, je vais le dire comme ça, un arabe restera un arabe. Mmh. Et ils vont les utiliser et utiliser leur profil uniquement quand il y aura besoin d'aller, par exemple, emmerder un Pascal Boniface ou alors prêcher la bonne parole sur des positions, des positionnements politiques ou géopolitiques qui va les arranger. Donc ce sont eux. Oui, ce sont eux les racistes et ce sont eux qui essentialisent les personnes en fonction de leur origine.
Pour finir sur cette, ce sujet, Frédéric Ansel, il est invité pas beaucoup sur les chaînes mainstream d'Info Continue, mais sur Arte. Il était invité samedi dernier encore pour parler du conflit au Moyen-Orient. Et au vu de ce que tu as rappelé sur son passé, c'est assez problématique. Nous sommes quelques-uns à avoir alerté la chaîne Arte là-dessus. Maintenant, on va voir ce que dit la chaîne.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Mourad, nous allons terminer cette chronique avec le local. La presse a été informée par un communiqué du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, RCGE, le 10 octobre dernier, qu'ils étaient victimes de censure par le maire Serge Grouard. Ils n'apparaissaient pas, leurs photos n'apparaissaient pas sur un visuel. Lors des forums que Serge Grouard a tenus dans les quartiers, il y avait les élus de la majorité et pas de l'opposition. Il parle de censure. Quel est ton point de vue là-dessus ?
Alors mon point de vue, c'est pas une première hein, déjà. J'ai entendu Victor sourire fortement en faisant le faux étonné. Non, c'est pas une première. Il y avait un projet qui avait capoté, c'était un espèce de hors-série. Je sais plus si c'était pour les 20 ans, enfin de l'élection, quelque chose comme ça. Il y avait un hors-série de la mairie où en fait n'apparaissait pas le point de vue de l'opposition. Mmh. Et donc je me suis renseigné, j'avais pris contact avec une avocate de Reims, je crois, spécialiste de ces questions-là. Notamment des règles qui prévalent dans la vie municipale.
Notamment sur le bulletin municipal.
Oui, absolument. Et la loi, le code et la jurisprudence sont tous deux très clairs, nets et précis. Il faut un équilibre. Alors l'équilibre, moi je le trouve un petit peu léger, puisque c'est payé par les deniers publics. Je trouve qu'à chaque fois c'est toujours quelques paragraphes à la fin du journal pour l'opposition municipale. Je trouve ça un petit peu lâche. Enfin ce qui est embêtant, c'est... Alors donc c'est une forme de censure, tu as entièrement raison. Ça ne respecte pas l'équilibre voulu par la loi, c'est aussi une deuxième chose. Et ça je pense que RCGE devrait, le groupe d'opposition... devrait gratter un peu dans ce sens-là, parce que là, pour le coup, je vous dis, hein, ça avait fait capoter le précédent projet. Mais je trouve ça surtout d'une mesquinerie absolument extraordinaire. Et surtout, d'un non-respect des électeurs. Parce que, si vous voulez, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité. Alors, je rappelle, la règle, en gros, quand vous êtes élu, vous avez la majorité, vous avez 75% des sièges, et le reste se répartit entre les différentes listes. Donc, c'est là que vous avez une majorité absolument écrasante. Et les moyens qui vont avec. Je trouve d'une mesquinerie totale et absolue, notamment vis-à-vis des électeurs, de l'ensemble des électeurs qui ont voté pour les listes de gauche. Il n'y a pas des gens qui sont moins élus ou plus élus que d'autres, hein. Tout le monde est élu. Donc à partir du moment où ils sont élus, ils doivent apparaître sur les documents, sur tout ce que produit la municipalité. Notamment quand il s'agit de présenter les élus à la population, je trouve ça d'une bêtise assez consommée. Ça ne m'étonne pas non plus de Serge Grouard, hein, qui est capable de ce genre de bassesse. Mais je trouve la réaction assez légère pour l'instant de RCG. C'est évidemment une affaire qu'on va suivre.
Merci à toi, Mourad.
Merci à vous.
Merci de la qualité de ta présence dans cette émission, je le dis tout le temps. Merci, Victor.
Merci à toi, Hassan.
La suite de l'émission t'appartient. Je te laisse la main.
Voilà, donc après cette interview qui était un petit peu longue, on va se mettre un petit peu de musique, hein. ça va détendre l'atmosphère.
Bah oui, on est une radio musicale quand même.
Voilà. Et du coup, comme c'est moi qui fais la sélecta, je me suis permis de mettre un petit morceau qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Tagada Jones, Mort au con.
Ok, d'accord. J'espère que ça vous a un petit peu réveillé. On n'avait pas trop besoin cette heure-là.
Hein. Ouais. Mais après ce morceau qui du coup est quand même un petit peu brutal, on va pouvoir écouter la voix suave de Asma qui va nous emmener vers de nouveaux horizons. Asma, tu as vu un film ?
Oui.
Donc sur Nikki de Saint-Phalle et tu voulais nous en parler.
Oui, le film Nikki est en salle depuis le 9 octobre dernier. C'est peut-être le film qui, selon moi, révèle le talent d'actrice de Charlotte Lebon. Moi, ça m'a fait penser à un peu, il y a quelque chose de La Môme pour Marion Cotillard. Elle incarne donc l'artiste Nikki de Saint-Phalle, la célèbre peintre, sculptrice, qui a marqué le monde de l'art moderne avec des œuvres d'art immenses, très colorées, dans une opulence, avec beaucoup de rondeur, un peu à la Gaudi, qui l'a d'ailleurs beaucoup influencée. C'est un biopic réalisé par Céline Salette, qu'on connaît plus qu'en tant qu'actrice. C'est son premier film en tant que réalisatrice. Et lors de l'avant-première au Cinéma des Carmes le 10 octobre dernier, la productrice du film qui était présente, Florence Gasteau, nous avait confié que Céline Salette, elle traversait une période difficile dans sa vie personnelle et elle cherchait un nouvel élan, une nouvelle création, quelque chose qui la motive. Et c'est la découverte d'un documentaire sur Nikki de Saint-Phalle qui lui a inspiré le film. Et elle a été happée par cette femme, par cette histoire, par l'artiste et le personnage qu'était Nikki, parce que de son vivant, elle avait tout d'un personnage fictif, Nikki de Saint-Phalle, tellement elle avait quelque chose de très héroïque. Donc le film retrace sa vie de mère, de deux enfants, d'épouse et de femme aux prises à des angoisses, de crises paranoïaques, des allers-retours en hôpital psychiatrique. Et on découvre au fil du film, et je ne vais pas spoiler parce que c'est quelque chose qu'on sait de sa vie, que derrière se cache un inceste qu'elle a subi par son père et que les bribes de souvenirs, de réminiscences, de toute cette angoisse qui l'a fait passer pour folle en fait, sont l'écho de ce traumatisme. Et le film montre surtout, c'est le parcours d'une femme, vraiment d'une femme en gestation d'elle-même, et le film montre surtout comment la création et l'urgence à fabriquer quelque chose, et c'est ça qui va la sauver en fait, c'est ça qui va la porter. Et donc elle va créer dans ses œuvres qui va lui redonner une impulsion de vie. Et c'est toute l'énergie du film que de montrer ce qu'elle appelait elle-même d'ailleurs la folie des grandeurs, la seule folie qu'elle accepte d'assumer par elle-même.
J'ai la folie des grandeurs. Mais j'ai la folie des grandeurs féminines, c'est différent. Mon monde, il est courbe, il est rond. C'est un monde féminin et on voit qu'est-ce que c'est la folie des grandeurs d'une femme qui enfin a attendu 20 siècles pour pouvoir se manifester comme je le fais aujourd'hui.
C'est pour prouver qu'une femme avait la possibilité aussi de rêver en grand et de réaliser en grand. Alors ça, c'était très important pour de montrer que c'était possible. Et j'ai presque senti que c'était mon destin de montrer cette force-là.
Voilà, ça c'était un extrait d'un documentaire qui retrace sa vie. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de matières qui ont été faites sur sa vie, tellement elle est inspirante. Et on entend toujours Nikki de Saint-Phalle dire « la folie de Nikki de Saint-Phalle, cette folie des grandeurs ». Mais quand on voit le film, on comprend vraiment qu'il n'y a rien de fou en fait. Et le vrai fou, c'est peut-être le psychiatre qu'on voit, et là pareil, encore une fois, je ne spoile pas, parce que c'est quelque chose qui est d'ailleurs étudié en psychiatrie et en psychologie, le psychiatre qu'on voit, et même tout le personnel de psychiatrie, qui l'encourage à enterrer en fait, sa propre vérité, son secret et la source de ses traumatismes, qu'elle retourne elle-même en source, en impulsion de création. Et en tout cas, il faut voir Nikki, pas parce qu'on est féministe, pas parce qu'on est une fille et qu'on cherche à s'identifier à une femme, mais parce que c'est juste le parcours d'un être humain qui cherche sa subjectivité, qui cherche à se réinventer, à renaître, et même à puiser vraiment dans la source de ses démons. Et ça, c'est inspirant pour personne. Et elle le fait à travers l'art, et ça a fait d'elle une icône de l'art contemporain. Et aussi parce que le jeu de Charlotte Lebon est vraiment spectaculaire.
D'accord, bah écoutez, ruez-vous en salle pour aller voir le film de Nikki de Saint-Phalle.
C'est vraiment un film à César. Ouais. Moi, je la vois bien, meilleure actrice nominée.
D'accord, à ce moment-là.
Ouais, je pense que ce sera un film à César.
Bah, merci beaucoup, Asma. On se met un petit jingle et après, on va passer tout de suite à la chronique de Steven.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Ouais, sauf qu'il n'est pas là aujourd'hui.
Faudrait vraiment qu'on, qu'on fasse un vrai jingle pour toi là, parce que ouais, ça commence à devenir récurrent. Hein.
Ah bah t'en rompu
avec Victor.
Ouais. Ah bah t'en
rompu. Oui, on va le faire de manière artisanale si tu veux. Tu nous le passes pas, on te le fera la prochaine fois. Voilà, tu nous fais signe, on le fait.
On salue Hassan.
Ouais. Oui, ah ouais, bien sûr, on salue Hassan.
De, peu importe qui.
Alors Steven, tu m'as passé un petit papier. Alors, avant de commencer, tu voulais faire une mise au point.
Bah oui, je voulais faire, parce qu'on va parler d'un sujet que je n'aborde jamais, donc je voulais faire une petite mise au point terminologique. Quand je parle de facho, je parle donc de facho, hein, ok ? N'en déplaise aux fachos, hein, mais les petits groupuscules racistes avec des idées de suprémacistes blancs, j'ai tendance à les appeler des fachos. Oui, j'ai tendance à considérer que les nostalgiques d'Hitler ou de Pétain, hein, ils ont une appétence au fascisme, hein, je suis désolé. Alors du coup, hier avec Victor, on est allé au 108 où le Chafouin a invité Ricardo Pereira, journaliste indépendant et créateur du site internet Indextrême, donc une combinaison de Index et Extrême. Il est venu sensibiliser sur les symboles de l'extrême droite et présenter son site internet, un site lancé en 2022. Aux côtés d'un illustrateur Geoffrey Drone, le site recense plusieurs symboles affiliés ou associés à l'extrême droite, hein, l'extrême droite dite parlementaire, hein, Reconquête ou le RN, hein, mais aussi l'extrême droite extra-parlementaire, qu'on peut aussi qualifier d'ultra-droite. Hein. Il observe aussi les symboles fascistes au sein de l'armée et de la police.
Quoi ? Notre police républicaine, qui n'est absolument pas raciste, mais engagée au service de l'ensemble de la population ?
Mais je suis aussi étonné que toi, mon ami. Hein. Mais les photos présentes sur le site hein, ne laissent pas de doute. Hein. Il y a des fachos dans la police. Ou des policiers parmi les fachos, je ne sais plus. Enfin bref. En tout cas, ça laisse une question en suspens. Pourquoi s'attaquer à décrypter les symboles de l'extrême droite ?
Surtout depuis les gros fascismes, donc Franco, franquisme, Mussolini, Salazar au Portugal et le nazisme, la propagande... Et même le communisme, hein. Si les communistes, ils ont eu une puissance en termes de propagande énorme. Et donc, le symbole, c'est quelque chose qui est utilisé depuis que nous, on existe comme collectif, comme quelque chose qui sert à nous rassembler. Et en fait, le symbole, il existe pas seulement... dans son champ visuel, mais il existe dans sa partie sémiologique de qu'il porte une connotation et une dénotation. En fait, il nous habite par la manière comme il nous parle et la manière comme nous, on le voit. Et ça, en fait, c'est la structure même de notre identité sociale. La France, c'est un drapeau. Coca-Cola, c'est un symbole. Nike, c'est un symbole. Tout ça, en fait, tous ces symboles qui existent dans notre société, ils nous parlent. Et derrière, il y a des mots, il y a un sens. Et tout ça, en fait, ça fait partie de la rhétorique, d'une sémantique, aussi d'un processus d'assimilation, d'un processus de conduite grégaire, dans lequel le symbole il joue son rôle pour nous partager des informations et dans lesquelles les gens aussi ils vont s'identifier. C'est pour ça que l'extrême droite, ils ont très bien compris ça, parce qu'ils savent que il y a la notion de quand je vais voir ces symboles-là, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Soit j'ai de l'aversion à ce genre de symboles, soit je m'identifie. C'est ça qu'on appelle le dog whistling. Ça veut dire que c'est des symboles qui ne sont pas accessibles à tout le monde, bon, tout le monde ne connaît pas leur signification, mais qu'ils parlent à un certain nombre.
Donc, bon, vous l'avez compris, hein, identifier les symboles, ça permet de savoir à quelle idée ou valeur se rapporte une personne. Généralement, hein, quand tu vois une personne arborer une croix gammée, tu peux supposer qu'il ne sera pas fan de la question des coloniales. Hein. Il sera peut-être plus un peu gomuscu, mais bon. Cela m'amène à soulever une autre question. Depuis plusieurs années, hein, on voit se déployer dans l'espace public un ensemble de symboles de l'extrême droite. Hein. Dans la période récente, on a eu plusieurs cas de policiers arborant des symboles fascistes et qui ont été dénoncés par des journalistes, des associations ou des personnalités politiques. Hein. Rappelez-vous, en 2023, on a vu ce policier avec le soleil noir à Orléans. J'ai donc demandé à Ricardo, qui étudie la question depuis plusieurs années, quelle était son analyse de cette place qu'occupent les symboles dans l'espace public.
Il y a deux choses. Il y a des symboles qui sont détournés, et donc il y a une première phase que ça pourrait être une réflexion approfondie, pourquoi on permet encore que tous ces symboles-là ils puissent exister dans l'espace public, dans nos institutions. Et après, il y a des symboles qui sont plus récents, qui font des références à des organisations qui ont pu commettre ou qui ont commis des crimes contre l'humanité, par exemple comme les nazis, les SS, donc le drapeau nazi par exemple, ou le SS, ou toute la symbologie qui va avec le nazisme ou le fascisme. Et ça, heureusement, il y a déjà des lois, mais elles sont très peu utilisées. Ça, c'est des attaques en lesquelles, après, ça va quoi? Ça va avec une croix celtique, une fleur de lys, un 732, en référence à Charmatel et la lutte, à la bataille de Poitiers. Donc tout ça, c'est des choses, ça crée une ambiance de peur, une ambiance d'insécurité au sein de ces minorités-là. Et moi, je pense qu'on ne peut pas laisser que ces symboles se normalisent dans l'espace public.
Donc, les symboles de l'extrême droite sont de plus en plus repris par une droite réactionnaire qui tente à vouloir aussi s'imposer dans l'espace culturel. Cette question avait d'ailleurs été abordée pendant la présentation, hein, notamment avec les théories de Gramsci qui a pu être citées, hein, selon laquelle la victoire culturelle préexiste à la victoire politique. Et on a plein d'exemples qui montrent que cette volonté de l'extrême droite de se faire une place dans le monde culturel. Oui, je sais, hein, que culture et fascisme dans la même phrase, ça fait bizarre. Mais bon, prenez par exemple Bolloré, qui acquiert la maison et d'édition Hachette, ou Bardella dont la merde ne découle pas que du pantalon, visiblement, parce qu'il l'écrit aussi. Hein. L'extrême droite cherche une place dans l'espace culturel. J'ai donc demandé à Ricardo, y a-t-il de plus en plus de présence de signes, de symboles d'extrême droite dans la culture?
Je trouve qu'il se normalise dans l'espace public, mais dans l'espace culturel, c'est plus complexe, c'est plus compliqué parce que ça existe déjà depuis longtemps. Et ces groupuscules-là, ils utilisaient déjà dans la culture, parce que la culture, c'est la musique aussi, ils utilisaient déjà toute une panoplie de symboles. Hein. Le New Age, que de base, c'est un mouvement qui veut ressusciter, si on peut dire comme ça, les cultures nordiques, celtiques et tout ça. C'est un mouvement très accepté, mais ils vont recycler toute une panoplie de symboles qui étaient utilisés par des nazis. Parce que les nazis, à leur tour, avaient détourné aussi déjà tous ces symboles de la culture germanique, nordique, les vikings. En fait, et donc tu vois un genre de renaissance, tu vois, de tout ce symbole fasciste que d'une certaine façon, ils sont dans l'espace public et d'une certaine façon, ils sont aussi dans l'espace culturel. Mais après, il faut faire cas par cas, contextualiser cas par cas. C'est pas par hasard, on passe de Front National à Rassemblement National. Rassemblement National, c'est il y a eu le Rassemblement National, c'était des collaborationnistes pendant Vichy. Ça a été une phrase qui était utilisée par Pétain lui-même. Et donc, il ne faut pas casser avec la tradition fasciste. Marine Le Pen, en 2019, si je ne me trompe pas, elle va changer de Front National à Rassemblement National. Et donc, ça, c'est problématique. Et ça, en fait, ce n'est pas dans le culturel, c'est dans le politique. Mais le culturel, c'est politique. Il faut, à mon avis, je pense que c'est ça que nous on fait d'ailleurs avec le site, c'est on prend chaque symbole, on étudie dans leur contexte, d'où il vient, comment il est utilisé aujourd'hui, on source, on met des photos et on fait un par un.
Et là, on comprend qu'il n'est pas possible de prendre un symbole et de le catégoriser comme fasciste. Bon, pour certains, le doute n'est pas permis. Hein. Le gars qui arbore la croix gammée, tu te dis pas, non, c'est juste un fan de perpendiculaire. Il se fout de la... Bref, mais pour d'autres, prenez par exemple Captain America. Je n'ose croire que tous les gamins fans de Marvel soient des nazis. Quoique, bon, Parfois, le contexte va être nécessaire. Concrètement, le cochon, bah, ok, c'est juste un animal. Mais des masques de cochon devant une mosquée, l'intention n'est pas la même. Les fachos, ils aiment bien le confucianisme. Hein. Ils s'en servent pour propager leur discours. Pour eux, tout peut devenir un symbole, pour peu que cela serve leur discours.
Ça semble tellement anodin, un cochon. Mais à partir du moment que tu te pointes avec des masques de cochon devant une mosquée et tu dis « Islam hors Europe », mais tout est dit. Mm-hmm. Le musulman ne mange pas de porc.
Et est-ce que ça veut dire qu'il y a un contexte, des fois, pour certains symboles ?
Il y a toujours un contexte. Il y a toujours un contexte dans leur récit à eux. Mm-hmm. Dans leur récit à eux, ils ramènent tout à leur discours de haine. Tout. Toutes les choses, mais c'est tout, chaque groupuscule d'extrême droite, il va ramener quelque chose régional, quelque chose national, pour créer leur logo, pour être une figure tutélaire. Et qu'on comprend qu'en fait, l'extrême droite, elle pioche des symboles depuis l'extrême droite, mais la France existe seulement depuis 1800 à peu près. Ça veut dire que ça fait à peu près deux siècles qu'existe la France, mais pour l'extrême droite française, ils vont piocher des symboles dans le préhistoire. Souvenez-vous du bloc identitaire. Ça a été le sanglier du bloc identitaire. C'est les enseignes gauloises de la préhistoire. C'est exactement le même symbole. Ils vont chercher ça. Le coq, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. Ils vont chercher tout ça.
Mais ils ne vont pas chercher que dans leur histoire, où, parce qu'il y a le samouraï que je vois sur le site, et puis on pourrait même remettre en question l'utilisation de Jeanne d'Arc, hein, qui c'est quand même...
Il n'y a pas de non-sens, c'est seulement qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça se passe dans leur tête, et qu'est-ce que ça se passe dans leur tête, c'est parfois un mélange de différents courants politique que se trouve dans un truc, c'est la haine de l'autre. Là, on parle vraiment de dissonance cognitive. Ils ont pas, ils arrivent pas. Après, il y a, c'est pas de non-sens. Après, il y a un truc de dissonance. Il y a un genre de dissonance cognitive. Et il veut pas voir que.
Bon, en fin de compte, pour les fachos, la vérité compte bien peu, hein, parce que leur stratégie fasciste est une stratégie de classe qui consiste à rallier une partie des classes populaires à la bourgeoisie en utilisant un récit nationaliste et raciste pour créer un compromis de classe ayant pour but de neutraliser le récit de gauche. Et pour ça, ils se targuent d'avoir une image lisse, détournent les symboles et dissimulent leurs idées racistes, fascistes et xénophobes. Mais quand tu regardes leur référentiel, en réalité, les classes populaires ou la République, ils s'en branlent. En vrai, je sais même pas pourquoi tous ces trucs, ils sont même pas dissous encore.
Non mais attends, est-ce que ce serait pas une entrave à leur liberté d'expression et ça ferait de nous des fascistes ?
Non mais t'as pas suivi ou quoi, Victor ? Ce sont des putains de nazis, hein ! Ils ont beau se cacher derrière des symboles, ça reste des putains de nazis, hein ! Donc voilà, allez vous faire un tour sur le site, hein, consultez le travail des associations Antifa également, qui font un travail de veille sur tous ces sujets. Explorez tout ça, si ça se trouve, vous pourriez apprendre que votre copain est raciste.
Abattons on pue, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Voilà, bah merci beaucoup pour cette chronique. Alors, on a encore un peu de temps, il nous reste 13 minutes. Est-ce que tu veux qu'on se lance dans ta chronique sur l'histoire de Souleymane ?
Oui, bien sûr.
Alors Steven, tu es parti voir l'histoire de Souleymane et tu le recommandes. Mais pourquoi ?
Alors, je recommande, mais pour plus d'une raison. Mais avant, un peu de contexte. Donc, l'histoire de Souleymane, réalisée par Boris Loukin, met en scène Souleymane, un livreur à vélo guinéen, demandeur d'asile dans les rues de Paris. Pour obtenir l'octroi du statut de réfugié, il ira jusqu'à chercher à obtenir des documents qui lui permettront de passer son entretien. Tout au long du film, il répète un récit d'asile qu'il peine à apprendre. L'interprète de Souleymane, Abou Sangaré, a été primé à Cannes, a inspiré l'histoire par laquelle Boris Loukin casse les discours politiques déshumanisants et déconnectés de la réalité. Souleymane n'est pas un migrant, il est humain, complexe et vivant. Le film suit un Souleymane qui file à toute vitesse pour ses livraisons, pour ses papiers, pour une place en hébergement d'urgence. La dernière scène, son entretien, est la seule scène posée où l'on découvre son histoire.
Et donc tu as adoré ?
Eh bien oui, parce que ce film est juste. Il déconstruit le discours politique et médiatique sur la vie des personnes migrantes. C'est tout bête, hein, mais le récit de Souleymane s'efforce d'apprendre d'apprendre. Il déconstruit ce discours disant que les demandeurs d'asile sont nécessairement des personnes fuyant un pays en guerre. Hein, rappelez-vous de Macron qui, en 2020, parlait de dévoiement du droit d'asile. Hein, pour rappel, on a deux catégories de réfugiés, hein, les réfugiés constitutionnels, c'est-à-dire les combattants de la liberté protégés par la Constitution, et les réfugiés conventionnels qui obtiennent ce titre grâce à la Convention de Genève en raison de persécutions. Et donc Macron lui disait qu'il fallait forcément être dans un pays en guerre pour demander l'asile. C'est pour ça qu'il parlait de dévoiement. À tort donc. Il rappelle également ce que sont les plateformes de livraison. Pas moins que les nouveaux lieux de l'exploitation, notamment des personnes racisées. Hein, ces plateformes numériques participent à la reconfiguration de l'emploi précaire qui se révèle particulièrement bien adapté à l'exploitation des personnes racisées et d'autant plus sans papier. La précarité dans laquelle sont plongés les livreurs sans papier les assigne à une nouvelle forme de docilité, à un travail d'immigré. C'est un sujet à part entière que je n'aurai pas le temps de développer ici. Pour ça, je vous renvoie à l'ouvrage de Sophie Brenard, Hubert Usé, Le capitalisme racial de plateforme. En tout cas, le film montre parfaitement cette réalité des livreurs ubérisés, exploités et non reconnus. Le film il se déroule sur 48 heures, durant lesquelles on suit un Soliman faisant la course à vélo contre le temps. Le temps défile et file à toute vitesse, mais des rituels se mettent en place, comme l'appel tous les matins au 115. Soliman nous embarque dans l'enfer de l'hébergement d'urgence. Appelé tous les matins pour obtenir une place pour le soir. Sur ce point, je rappelle qu'à Orléans, aux Orléanais ou aux Tourangeaux, que le film se passe à Paris. À Orléans, par exemple, il est très difficile pour un homme seul d'obtenir une place en hébergement d'urgence. Boris Loukin voulait montrer un film réaliste, et ça, c'est très réussi. À un moment, on entend cette phrase que celles et ceux qui ont déjà travaillé avec les publics des personnes migrantes ont entendu au moins une fois dans leur vie « Oui, mais pour mon ami, ça a marché ». Mais ce n'est pas cela qui donne ce réalisme. Le réalisateur a montré toute la complexité des sans-papiers et toutes les formes d'exploitation, y compris celles dites entre compatriotes. Soliman, étant sans autorisation de travail, obtient le compte d'un ami pour travailler sur les plateformes, mais nous découvrons que les mêmes compatriotes peuvent se permettre les pires trahisons. Enfin, la demande d'asile. Hein, tout le film nous porte jusqu'à la dernière scène, la scène de l'entretien. Quand il a un moment, Soliman révise son récit d'asile rédigé par un autre compatriote qui cherche à s'enrichir grâce à la machine des sans-papiers. Donc l'enjeu du film est d'arriver à l'entretien qui lui permettra de régulariser sa situation, de peut-être retrouver son amour resté au pays et de sortir de l'exploitation. La scène de l'entretien vient clore le film sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre les réponses. C'est donc un film qui n'est pas manichéen, un geste de cinéma remarquable montrant un Paris invisible pourtant à la vue de tous. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film, parce que alors que des politiciens comme les Ciotti, les Zemmour, les Le Pen, les Retailleau et toutes ces conneries s'efforcent de semer le mensonge et la calomnie sur les personnes migrantes, je vous invite fortement, si vous le pouvez, à aller voir ce film. Je pense qu'il tombe à point nommé, surtout dans le contexte politique d'aujourd'hui. Quand l'Italie essaie de commettre les pires horreurs humaines contre les personnes migrantes et que ces pires horreurs inspirent la France, je pense que le film peut être un outil de compréhension face à ça. Force à Abdou Sangaré, hein, qui tente de se faire régulariser. C'est regrettable, par contre, de devoir en arriver à là pour aboutir à une régularisation. Hein. Il faut arrêter avec le mythe des migrants héros qui peuvent être, eux, régularisés. Ce sont des humains et ça, aucun papier ne le changera.
Merci beaucoup, Steven, pour cette critique du coup, sur le film...
L'histoire de Soliman.
L'histoire de Soliman.
En salle depuis le 9 octobre.
Ouais, moi, j'ai été effaré par les commentaires sur les réseaux sociaux, en fait, lorsque le film a été mis en avant. On voit que la fachosphère est toujours présente sur les réseaux sociaux en permanence pour dénigrer le film, dénigrer cet acteur qui a fait un travail
Allez écouter aussi les interviews parce que Soliman n'est pas comédien, en fait il est mécanicien de profession. Ouais. et donc il raconte un peu tout ce parcours pour filmer. Ouais. et même la façon dont le film est tourné, en fait tout se fait à vélo. Et même les caméras sont embarquées sur des vélos, c'est ouais, super bien tourné, je trouve.
Il faut pas oublier, je pense, avant de critiquer les migrants, enfin se rappeler notamment que c'est cette partie de la population aussi qui prend notamment les emplois que les Français entre guillemets ne veulent pas prendre en général, donc tous les emplois les plus pénibles, les plus précaires, les plus compliqués, les plus difficiles. Donc avant de cracher son fiel dessus, essayons peut-être un peu de nous mettre à la place et de comprendre aussi.
De comprendre, oui. Ouais. D'autant plus qu'on va avoir une belle loi immigration en janvier.
Ah, magnifique, oui, tout à fait. Donc, mais on est bien content, en tout cas, de les voir prendre des emplois que l'on ne prend pas en général. Donc, c'est le deux poids, deux mesures, ça me fatigue un peu.
Oui, 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 bah moi aussi, hein. Enfin, beaucoup de gens de gauche, j'imagine. Avant de clore cette émission, Thomas, tu voulais nous dire deux, trois mots sur la rédac pop, peut-être ?
Bon, écoute, ça continue, on continue de sortir des articles régulièrement, et aujourd'hui, on a sorti un papier par rapport à une conférence qui s'était tenue le mois dernier, le 24 septembre dernier, pour être précis, par l'association très proche des idées d'extrême droite orléanaise, qui s'appelle France Souveraineté, une conférence au cours de laquelle un certain Xavier Moreau était invité pour parler d'Ukraine, de Russie, intervenant pro-russe, fustigé dans de très nombreux médias, justement comme complotiste et intervenant, comment dire, qui fait la propagande du Kremlin, on va dire ça comme ça, donc qui ne s'est pas empêché de la faire, justement, cette fameuse propagande au cours de cette conférence qui est visionnable malheureusement sur, sur Internet. Mais en tout cas, on l'a observé, on l'a visionné, on l'a décrypté et on a notamment fait le point avec cela avec Alexandra Goujon, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Ukraine depuis le milieu des années 1990 et qui a débunké ce discours. Donc nous nous sommes entretenus très longuement avec elle, ce qui a donné lieu donc à cet article que vous pouvez consulter à l'instant sur le site de la Rédac Pop, ainsi qu'une émission d'une quarantaine de minutes à peu près, disponible aussi sur cet article-là et qui sera également diffusé sur notre antenne de Radio Campus Orléans ce samedi à 15h.
Steven ?
Oui, et je voulais juste aussi teaser un prochain article, l'interview qui a été faite de Ricardo Pereira qui sera diffusée en intégralité.
Ouais, tout à fait. On met également en avant Ed Dwight également. Alors, cet astronaute qui, enfin, cet homme qui aurait pu devenir le premier astronaute noir dans les années 60. Félix, notre bénévole, nous a écrit un somptueux article et nous a fait une superbe émission à retrouver sur le site internet de Radio Campus Orléans. Donc, nous, on fait le lien avec justement cet article sur la Rédac Pop. Donc, venez sur le site de la Rédac Pop, venez sur l'article et vous allez tomber sur le lien qui vous mène directement à cette émission. C'est un document exceptionnel à retrouver sur Radio Campus Orléans, tout simplement parce que Ed Dwight a accordé à Radio Campus en fait sa première interview à un média français. Voilà, et c'est un homme vraiment qui a une vie extrêmement chargée, ancien pilote d'essai américain qui aurait pu devenir le premier astronaute.
Une exclue. Voilà,
voilà. Une exclue. Exclusive Radio Campus Orléans, c'est ça. Radio
ça
Campus.
Marche. Merci beaucoup Thomas, merci à toi Asma, merci Steven. On
merci
va
à
se quitter bientôt, oui, c'est
oui,
la fin de
Bâton
Rompu. Bah de rien. C'est la fin d'un bâton rompu. Juste après sur Radio Campus sur les ondes de Radio Campus Orléans, vous avez Raiden, la meilleure émission de reggae du monde. Et sinon sur Radio Campus Tour, vous devrez avoir du jazz, il me semble. Voilà, on se quitte sur un petit morceau d'un groupe du Nord-Pas-de-Calais parce que voilà, c'est ma terre natale. Enfin, je suis pas né là-bas, mais c'est là où j'ai fait mes études et c'est ma ville de cœur, on va dire.
On dit les Hauts-de-France maintenant. Non, tu préfères dire Nord-Pas-de-Calais quand même.
Oui, c'est vrai qu'on dit les Hauts-de-France, mais je mourrais avant. Moi, j'aimais bien la proposition d'appeler ça Terre du Nord.
Ah,
je trouvais ça classe.
Ouais, il y a un truc quoi, Terre du Nord, tu vois,
ouais,
ça fait très,
un truc un peu...
très Game of Thrones.
Ouais, 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 c'est ça, mais je trouvais ça classe. Enfin bref, toujours est-il qu'on se quitte du coup sur la part du fromage de zone d'expression populaire.
Dinar Corbo, il a mangé tout le fromage! Maître renard n'est qu'un tocard, un zonard, un minable, une baltringue, un naze, un faiblard, un brigand, une petite frappe, un petit salopard, il taffe au black. Dans une tanière du boulevard, maître corbeau, star à gronde, perché en costard, fait partie de la haute zarma, il fume son cigare, il est actionnaire de la grosse tanière, madame corbeau. En est la riche héritière, maître renard, vénère, en galère de Jean Hart, il a même plus. Un gémant dans le placard, il déprime avec son pétard et son pinard en attendant qu'il arrive le grand soir, maître corbeau. aime les euros, les restos, les vacances. À l'œil sur le yacht de son poteau, il a du goût, le salaud, du standing et de la classe. Lui ne partage qu'avec ceux de sa race, maître renard. Et sur la paille n'a plus un dard, maître corbeau. Toujours tranquille, toujours peinard, maître renard. Risque de faire une connerie, se faire un sarc corbeau en michoui à midi. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si maître corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Maître corbeau sur son arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître corbeau était tout de noir vêtu, on ne voyait que ses yeux dépassés de son plumage. Et v'là que débarque le renard. Ouais, c'est bon, enlève ta bourque, barco. Wesh, tu croyais pouvoir passer incognito. T'es pas un corbeau, tu serais plutôt dans le genre pivoleuse. Ce fromage n'est pas le tien, c'est au peuple des renards qu'il appartient. Faudrait que tu rendes ton butin. Bah tiens, trop c'est trop, maître corbeau, furax, passe un coup de bigot. Et v'là que les chiens policiers débarquent aussitôt. Une horde de molosses dans le genre berger allemand encercle et bastonne le renard jusqu'à lui faire perdre toutes ses dents. Le corbeau est fier de lui. Ah, je suis vraiment trop fort, c'est vrai, j'avoue. À dire, je bosse. Toutes les meufs me kiffent, normal. J'ai trop de style, trop de classe, trop de flow quand je me pointe quelque part.
C'est chaud.
Face à tant de vanité, le renard a compris que c'était l'occasion rêvée pour récupérer le fromage sacré. Votre majesté, votre jour de gloire est arrivé. Et ce jour, il faut qu'on l'immortalise.
Oui.
Une photo. Oh, excellente idée. Souriez.